Le National. On sait beaucoup ce qui se dit au Québec, mais sait-on ce qui se dit ailleurs au pays, dans les régions francophones? Eh bien, cette émission est destinée justement à vous partager des articles qui sortent à droite et à gauche sur des sujets aussi différents que, par exemple, aujourd'hui, la crise des programmes d'immersion en français, l'investissement dans des radios communautaires en Nouvelle-Écosse, l'histoire de la raquette à neige, de cet héritage amérindien. On parlera d'un fromage trappiste et de la succession à la fabrication de ce fromage. On parlera, je vous lirai aussi les chroniques d'un troqueur sur la glace. Et là, le troqueur, il est fatigué. Je vous parlerai de ce brise-glace qui est déployé au large de Chipagan pour aider les baleines noires. On verra aussi comment le gouvernement fédéral a dévoilé son plan d'action pour les langues officielles. Bref, voyez-vous, la francophonie, les langues, le français, les baleines, les raquettes, eh bien, c'est ça, le national. Et on commence avec l'Express.ca qui nous arrive d'Ontario et la crise des programmes d'immersion vue de plus près. C'est un texte de Michel Villegas-Kerlinger. Radio-Canada a fait plusieurs reportages récemment sur la crise des programmes d'immersion en Ontario et ailleurs au Canada. Marjorie April, l'animatrice de l'émission radiophonique « Il n'y a pas deux matins pareils », a interviewé de nombreux spécialistes en la matière. Tous ont affirmé que la crise dans les programmes d'immersion est le résultat d'un manque d'enseignants qualifiés en français. S'il est vrai qu'il y a un besoin criant d'enseignants français, il faut nuancer toutefois ces propos, écrit Mme Villegas-Kerlinger. La pénurie est réelle, mais le manque existe surtout au palier élémentaire, du moins dans la région de Toronto. Les postes au niveau secondaire, surtout les postes permanents, sont beaucoup plus rares et la compétition beaucoup plus dure que dans les écoles élémentaires et intermédiaires de la région. Alors comment expliquer ce phénomène? Il faut admettre que nombreux sont les élèves qui abandonnent le programme d'immersion en cours de route. Cet abandon a lieu surtout à la fin de la 8e année, au moment où l'élève doit choisir son école secondaire. Il peut même se produire avant la 8e ou après, en 9e, mais plus rarement en 10e année. Les raisons de cet abandon sont multiples. L'élève en 8e année qui veut s'inscrire dans un programme du baccalauréat international ou poursuivre ses études en arts visuels au secondaire, par exemple, trouvera difficilement une école d'immersion qui offre ces programmes spécialisés. Certains jeunes se concentrant sur les matières exigées par les programmes universitaires qui les intéressent ne veulent ou ne peuvent plus continuer leurs études en immersion. D'autres veulent tout simplement suivre leurs amis qui choisissent une école où tous les cours sont offerts en anglais. Il faut mentionner aussi le cas où le jeune n'est tout simplement pas préparé pour l'école secondaire. Comme les élèves à l'élémentaire ne redoublent plus leurs cours en cas d'échec, les lacunes peuvent se multiplier d'année en année, devenant par le fait même un obstacle presque infranchissable à la fin de la 8e année. L'élève qui n'a pas le vocabulaire ni la grammaire de base en français, sans parler des compétences nécessaires en compréhension et en production orales et écrites, aura beaucoup de difficultés à réussir ses cours d'immersion au secondaire. En cas d'échec à ce niveau, le jeune doit redoubler le ou les cours en question et il accuse un retard sur les autres élèves de son âge puisque ses cours sont rarement offerts en été. Alors est-ce que la solution passe par le recrutement d'anciens élèves en immersion? Chose curieuse, certains directeurs d'école embauchent déjà leurs anciens élèves qu'ils connaissent au lieu d'un francophone qu'ils ne connaissent pas. Bien que certains élèves en immersion s'expriment très bien en français, à l'écrit et à l'oral, ce ne sont pas forcément ceux-là qui s'intéressent à l'enseignement. Par ailleurs, un élève en immersion n'atteindra que très rarement le même niveau linguistique qu'un francophone, surtout en situation minoritaire. Il va sans dire que la plupart des directeurs d'écoles anglophones ne sont pas en mesure de juger de la qualité du français d'un enseignant potentiel lors d'une entrevue. Parfois, ce critère est même secondaire à d'autres. Par exemple, si un candidat au secondaire peut entraîner une équipe de sport, ses nombreuses fautes de français peuvent être facilement pardonnées. Comme il faut s'y attendre, ces professeurs enseignent leurs fautes à leurs élèves qui, s'ils deviennent enseignants à leur tour, transmettent ces mêmes fautes et d'autres à la génération suivante. Résultat, des programmes d'immersion dont la qualité ne cesse de baisser avec les années. Alors, qu'en est-il des conseils scolaires? Aujourd'hui, la plupart font passer un test écrit et un test oral à un candidat qui veut enseigner le français. Il faut savoir toutefois que ce test se limite généralement à un petit paragraphe à écrire et à un entretien de quelques minutes en français. Quant au ministère de l'Éducation et à l'Ordre des enseignantes et des enseignants, dont le mandat est de réglementer la profession enseignante en Ontario, il juge qualifié en français un enseignant qui a suivi un cours qui s'appelle « French as a Second Language, Part 1 ». Pour suivre ce cours, il suffit d'avoir son brevet d'enseignement de l'Ontario et de réussir un test de compétences en français, plus rigoureux certes, que ceux des conseils scolaires, mais pas forcément assez pour un candidat qui veut enseigner en immersion, surtout au niveau secondaire. Le cours lui-même est souvent enseigné par des anglophones ayant appris le français et son contenu vise la méthodologie et non la qualité de la langue. Ce manque de rigueur de la part des uns et des autres donne lieu parfois à des situations invraisemblables et embarrassantes, comme dans certains cas où les élèves s'expriment mieux en français que leur professeur, qui parle un français très approximatif ou même parfois ne parle pas français du tout. Enfin, il faut préciser que certains enseignants en immersion considèrent ce programme comme un mal nécessaire, une sorte de pis-aller, en attendant autre chose de moins exigeant. Ayant suivi le cours de FSL Part 1, il se qualifie en français et ce, dans le seul et unique but de décrocher un contrat permanent, les postes en français étant plus nombreux que les postes en anglais. Mais dès qu'ils sont dans le système et que l'occasion se présente, ils posent leur candidature pour un poste en anglais. Même si un enseignant issu d'un programme d'immersion s'exprime assez bien en français, il y a aussi la question de la culture. Combien de ces enseignants connaissent la francophonie ou même s'y intéressent? Est-ce qu'ils sont engagés dans la communauté francophone de leur région? Combien parlent français en dehors de la classe alors qu'ils encouragent leurs élèves de le faire le plus souvent possible? La francophonie se limite-t-elle à leurs yeux à la France et à la Tour Eiffel? Chantal Bourbonnais, directrice générale de l'Association canadienne des professionnels d'immersion, prône une valorisation de la profession d'enseignant pour encourager plus de jeunes en immersion à devenir enseignants dans le programme. Pourtant, le succès de ces programmes ne peut se réaliser sans la valorisation de la langue française et les différentes cultures qu'elle véhicule, trésors qui ne sont pas toujours appréciés à leur juste valeur par les non-francophones. Alors, la solution à la crise des programmes d'immersion en Ontario passe-t-elle par un registre national de candidats et d'employeurs, par l'embauche d'anciens élèves en immersion? Pourtant, cette crise ne s'explique pas seulement par le manque d'enseignants. Elle touche aussi et de près la qualité du français et la culture qu'on enseigne dans ces programmes. Un enseignant de français qualifié selon les normes de la province n'est pas forcément synonyme d'une personne qui s'exprime bien en français ou qui connaît la francophonie. Et si les directeurs et les conseils scolaires anglophones s'ouvraient davantage à la francophonie en Ontario, ailleurs au Canada et dans le monde? Si par la suite l'Ordre des enseignantes et des enseignants et le ministère de l'Éducation resserraient les exigences vis-à-vis des futurs enseignants de français? Pour la qualité et la survie des programmes d'immersion, peut-il en être autrement?
Je m'appelle Moussa, j'ai 10 ans. Je suis en CM2 à Épinay, ville du 93 où j'ai grandi et où je suis né. Mon école, elle est mignonne, même si les murs sont pas tout neufs. Dans chaque salle, il y a plein de bruit. Moi, dans ma classe, on est 29. Il n'y a pas beaucoup d'élèves modèles, puis on est un peu dissipés. Je crois que nous sommes ce qu'on appelle des élèves en difficulté. Moi, en maths, je suis pas terrible, mais c'est pas pire qu'en dictée. Ce que je préfère, c'est 16 heures, je retrouve les grands dans mon quartier. Pourtant ma maîtresse, je l'aime bien, elle peut être dure mais elle est patiente. Et si jamais je comprends rien, elle me réexplique, elle est patiente. Elle a toujours plein d'idées et plein de projets pour les sorties. Mais on n'a que 2 quarts par an qui sont prêtés par la mairie. Je crois que mon école, elle est pauvre, on n'a pas de salle informatique. On n'a que la cour et le préau pour faire de la gymnastique. À la télé, j'ai vu que des classes faisaient du golf en EPS. Nous, on n'a que des tapis, des cerceaux et la détresse de nos maîtresses. Alors si tous jouent à l'école, il est temps d'entendre le SOS. Ne laissons pas se creuser le fossé d'un enseignement à 2 vitesses. Au milieu des tours, il y a trop de pions dans le jeu d'échecs scolaires. Laissons pas nos rois devenir fous dans des défaites spectaculaires. L'enseignement en France va mal, personne peut nier la vérité. Les zones d'éducation prioritaires ne sont pas des priorités. Les classes sont surchargées, pas comme la paye des profs minés. Et on supprime des effectifs dans des écoles déjà en apnée. Au contraire, faut ajouter des profs et d'autres métiers qui prennent la relève. Dans les quartiers les plus en galère, créer des classes de 15 élèves. Ajouter des postes d'assistants ou d'auxiliaires qui aident au devoir, qui connaissent les parents et accompagnent les enfants les plus en retard. L'enseignement en France va mal, l'État ne met pas assez d'argent. Quelques réformes à deux balles pour ne pas voir le plus urgent. Un établissement scolaire sans vrais moyens est impuissant. Comment peut-on faire des économies sur l'avenir de nos enfants? L'enseignement en France va mal car il rend pas les gens égaux. Les plus fragiles tirent l'alarme mais on étouffe leur écho. L'école publique va mal car elle a la tête sous l'eau. Y a pas d'éducation nationale avec des moyens de survie locaux. Alors continuons de dire aux petits frères que l'école est la solution. Mais donnons-leur les bons outils pour leur avenir, car attention, la réussite scolaire dans certaines zones pourrait rester un mystère. Et l'égalité des chances, un concept de ministère. Alors si tous jouent à l'école, il est temps d'entendre le SOS. Ne laissons pas se creuser le fossé d'un enseignement à deux vitesses. Au milieu des tours, il y a trop de pions dans le jeu d'échecs scolaires. Laissons pas nos rois devenir fous dans des défaites spectaculaires. Je m'appelle Moussa, j'ai 10 ans. Je suis en CM2 à Épinay, ville du 93 où j'ai grandi et où je suis né. C'est pas de ma faute à moi si j'ai moins de chances d'avoir le bac. C'est simplement parce que je vis là que mon avenir est un cul-de-sac.
Oui, la puissance des mots de Grand Corps Malade sur les ondes de Canal M. Je vous rappelle que vous écoutez l'émission Le National. Et puis quand on entend ce texte de Grand Corps Malade, on se dit que l'éducation, ça va mal absolument partout. Il ne faut pas penser que c'est un phénomène québécois ou canadien. En France, tout le monde s'en plaint aussi. Alors, Grand Corps Malade, tiens d'ailleurs, je lisais ce matin dans les journaux qu'il sera des francopholies cette année à Montréal, Grand Corps Malade. Bon, on passe complètement à autre chose. Je m'en vais maintenant dans le courrier de la Nouvelle-Écosse. Vous savez que j'aime beaucoup la radio, sinon évidemment je n'en ferai pas. Et lorsque j'apprends qu'il y a des investissements qui vont se faire pour aider des radios communautaires acadiennes et francophones, eh bien, ça me fait particulièrement plaisir et c'est ce que j'ai trouvé dans le courrier de la Nouvelle-Écosse. C'était dans l'édition de vendredi de la semaine dernière, il y a deux semaines, le 23 mars, où on nous disait ceci. À Halifax, le gouvernement investit 50 000 $ dans les radios communautaires acadiennes et francophones. Lina Mitlidge-Diab, ministre des Affaires acadiennes et de la francophonie, a annoncé l'investissement le 14 mars au nom de Léo Glavine, je ne sais pas, je m'en excuse, ministre des Communautés, de la Culture et du Patrimoine. Cette somme sera partagée également entre les quatre radios communautaires de la province situées à Chéticamp, au comté d'Inverness, et là on parle de CKJM-FM, à l'Île-Madame, le comté de Richmond, on parle de Situ.fm, on parle d'Halifax de CKRH et à Clare, le comté de Digby. On parle de CIFA-FM. Digby peut-être. Le gouvernement est ravi d'appuyer des initiatives du genre pour préserver, pour promouvoir aussi la culture unique et les langues de la province, affirme Madame Diab. Nos radios communautaires acadiennes et francophones jouent un rôle essentiel dans la préservation de la langue française en Nouvelle-Écosse et dans la promotion et la célébration de notre dynamique culture acadienne. Les radios communautaires mettent aussi en vedette les talents des Acadiens de la Nouvelle-Écosse en composition, en musique aussi et en création, et permettent aux auditeurs de découvrir d'autres cultures francophones grâce à des programmes de partout au Canada et dans le monde. Il s'agit d'une bonne nouvelle pour les radios communautaires francophones en Nouvelle-Écosse, souligne Rose Madden, présidente de l'Association des radios communautaires en Atlantique. Cet investissement permettra aux radios francophones de concentrer leurs efforts sur la programmation pour faire en sorte qu'elles demeurent des outils importants pour la culture acadienne et francophone dans nos communautés. Nous sommes très reconnaissants de l'appui du gouvernement de la Nouvelle-Écosse. Dans le cadre du mandat du plan d'action pour la culture visant à renforcer les communautés, le ministère des Communautés, de la Culture et du Patrimoine appuie les radios communautaires acadiennes et francophones à titre de promoteur de l'innovation et de la créativité francophone en Nouvelle-Écosse. Et puisque je m'y trouve, eh bien, je vais y rester. Je m'y sens bien dans le courrier de la Nouvelle-Écosse où Serge Vinet signe une chronique historique sous le thème « Protégeons notre patrimoine » qui s'intitule « La raquette à neige, un héritage amérindien » avec ma voix, ma foi, en photo, quelques types de raquettes différentes, certaines telles qu'on les connaît bien avec l'espèce de petite queue en arrière comme ça, mais d'autres, alors franchement différentes parce qu'il y en a une, par exemple, qui a la forme un petit peu d'une raquette de ping-pong. Donc, elle est toute ronde. On nous dit que ce sont des raquettes montagnaises qu'on appelle aussi les queues de castor. Il y en a d'autres qu'on appelle les pattes d'ours. Il y en a également qu'on appelle la queue d'hirondelle. Ça, c'est celle, je pense, que nous connaissons le mieux. D'ailleurs, tout ça, je suis convaincue que les Québécois connaissent ça par cœur. Moi, je suis très heureuse de découvrir l'historique de la raquette à neige, cet héritage amérindien. Originaire du Québec, province canadienne, aux hivers enneigés, j'ai découvert assez jeune la pratique de la raquette à neige, écrit Serge Vinet. Nous demeurions dans un petit village au nord de Montréal où il y avait de grandes étendues et de belles forêts qui nous permettaient la pratique de cette activité. Je chaussais mes raquettes après une belle bordée de neige et je partais dans la forêt. J'aimais quand les sentiers étaient recouverts d'une belle neige blanche et que ces cristaux comme des petits diamants scintillaient sous les rayons du soleil de mille et une brillances. C'était tout simplement magique et féerique. Penchons-nous sur les origines de la raquette à neige qui, au cours de son histoire, a été un moyen de transport pour les nations amérindiennes, les trappeurs et les explorateurs. Aujourd'hui, la pratique de la raquette à neige a gagné en popularité et il y a plusieurs fervents de ce sport hivernal. Les origines de la raquette à neige sont assez difficiles à préciser, puisque les historiens ne peuvent identifier quelles premières nations ont commencé à utiliser la raquette pour se déplacer sur la neige. La raquette semble être plus ancienne que la roue, qui, elle, remonte à environ 3500 avant Jésus-Christ. Le ski, pour sa part, aurait existé il y a plus de 6000 ans avant Jésus-Christ. Pendant plusieurs années, la raquette a été un objet très utilisé. Pour les peuples faisant face à l'hiver, la raquette était indispensable pour de courtes ou de longues distances. Ce fut aussi un moyen de communiquer entre les peuplades. On dit que la raquette était essentielle à la survie des gens en hiver ainsi qu'à la découverte de nouvelles contrées. Les documents d'archives prétendent que ce sont les peuples d'Asie centrale qui, en passant par le détroit de Béring, auraient apporté la raquette en Amérique du Nord, et ce, il y a de 30 000 à 5 000 ans avant Jésus-Christ, durant les périodes glaciaires. En Amérique du Nord, les historiens s'entendent pour dire que ce sont les Indiens qui ont perfectionné la raquette telle que nous la connaissons aujourd'hui. Les peuples d'Europe et de Scandinavie en sont restés au modèle primitif. Ils ont ensuite opté pour un objet bien différent pour se déplacer, le ski, qui avait des propriétés différentes. Ce sont les colons de la Nouvelle-France à cette époque qui ont introduit la raquette en Europe lors de leur voyage vers les années 1600. La raquette a eu une grande importance pour la découverte et l'évolution du Canada. Durant les hivers, sans la raquette, les missionnaires, les découvreurs, les trappeurs et nos aïeux auraient eu de la difficulté à communiquer et à exécuter les travaux quotidiens pour continuer à faire prospérer la colonie. La raquette représentait pour l'hiver ce que le canot représentait pour l'été, c'est-à-dire un équipement de première nécessité. La raquette à l'origine a toujours été fabriquée par les différentes nations indiennes de l'Amérique du Nord. Chaque nation a développé un style de raquette adapté à son milieu ou à son environnement. Chaque groupe utilisait des essences de bois différentes, du bouleau blanc ou du frêne, ce dernier étant très populaire à cause de sa maniabilité. Ce sont aussi les Amérindiens qui ont perfectionné le tressage de la raquette en utilisant des lanières de peau de certains animaux afin d'optimiser la flottaison et surtout l'adhérence. Il était autrefois possible de déterminer quelle nation avait fabriqué une raquette, dont voici quelques exemples. La raquette en forme de lance était fabriquée par la nation Ojibwe, qui habitait la région des Grands Lacs canadiens. La raquette en forme de feuille était l'apanage de la nation Huron, qui habitait le long du fleuve Saint-Laurent. La raquette disque poire était fabriquée par les Montagnais, originaires de la péninsule du Québec-Labrador. La raquette Ove était le fait des nations de l'Est du Canada comme les Mi'kmaq. Et enfin, la raquette ellipse était aussi fabriquée par les nations de l'Est du Canada et des États-Unis. Ce dernier modèle est l'ancêtre de la raquette moderne. En terminant, écrit M. Vinet, lui-même collectionneur de meubles et d'objets antiques, en terminant, écrit-il, j'aimerais partager la très belle citation amérindienne suivante. « L'homme blanc a toujours tenté de déplacer la neige ou de la contourner, alors que l'Indien a toujours cherché le meilleur moyen de marcher dessus et de vivre en harmonie avec elle. » Bon principe de vie que l'homme blanc devrait appliquer, soit le respect de notre mère, la terre.
De quoi de beau? Je travaille le bois, c'est toute ma vie, j'ai ce qu'il me faut. Un meuble antique en mirage, j'ai pris le guess de le faire tout seul dans mon garage. En plein travail, un sursaut, un mauvais geste me coupe le pouce en deux morceaux. Et ma douleur se lit, un rendez-vous vague dans mon visage. Sans miracle, un nouveau chapitre d'une mauvaise page. Comme une bombe sous le banc de scie, la vie me pogne, me plaque au sol de l'établi. Sous les phalanges, le coup de grâce donne à ma gorge la force de tout laisser entendre. Le rouge au mur, ma misère, couvert mon char, tache la neige dans un hiver. Et ma douleur se lit, un rendez-vous vert dans mon visage. Sans miracle, un nouveau chapitre d'une mauvaise page. Mon bonheur se lit, on remet mon doigt comme un collage. Un miracle, un nouveau chapitre, on tourne la page.
Les frères Goyette avec Doigté de neige. Et puis après les frères Goyette, on y va avec un frère trappiste et un fromage trappiste. C'était dans laliberté.ca, une revue francophone du Manitoba. Et Valentin Cuff qui nous écrit qu'après avoir passé 64 ans à fabriquer un fromage trappiste selon une recette spéciale, frère Albéric va passer la main. Le moine a trouvé dans le couple de chefs cuisiniers d'Austin Pelletier et Rachel Isaac, des successeurs dévoués à la tradition, et c'est une rencontre avec les héritiers du fameux produit laitier. Et ils ne sont pas membres de l'Église, mais le couple de cuisiniers compte faire preuve d'une foi sans borne envers la recette ancestrale du fromage de la Trappe. Dustin Pelletier, j'aurais du mal à l'appeler Justin, hein, mais bon, peine encore à réaliser le caractère unique de ce qui leur a été transmis. C'est à la fois extraordinaire et un peu fou ce qu'il nous ait fait confiance pour perpétuer cette recette du XVIIIe siècle. On est les dernières personnes en Amérique du Nord qui la détiennent en restant fidèles à son style originel. Ce qui a réuni frère Albéric et le couple de Manitobains, c'est l'amour de la nourriture artisanale, celle qui demande de la patience et un effort humain. D'après Dustin Pelletier, l'engagement du moine dans son travail a été contagieux. Il a une passion pour ce qu'il fait et cela allait bien avec notre mentalité et nos croyances, être fidèles à la véritable nourriture. Après avoir travaillé pendant des années dans les cuisines de restaurants manitobains, Dustin Pelletier et sa compagne, Rachel Isaac, ont senti le besoin de voler de leurs propres ailes. Et pour obtenir la crème de la crème des aliments, les deux passionnés ont quitté la ville pour aller à la rencontre d'agriculteurs pour être plus en contact avec la façon dont la nourriture est faite. Cette soif de connaissance pour la culture alimentaire les a conduits aux portes du monastère de Hollande, où le couple a rencontré pour la première fois le frère Albéric en 2016. À l'origine, nous y allions pour nous renseigner sur la façon dont on fait le fromage, et plus on parlait, plus on a réalisé. Car si on ne relevait pas le défi, personne d'autre ne le ferait et ce fromage serait perdu. Et tout ce que frère Albéric a passé les dernières 60 années à faire aurait juste disparu. Car frère Albéric, 84 ans, a décidé de prendre sa retraite et d'arrêter la fabrication du fromage de la Trappe. Face à l'absence de candidats pour reprendre le flambeau, il a obtenu il y a 6 ans l'autorisation pour transmettre la recette à une personne en dehors de l'église et même à 2 personnes dans ce cas-ci. On se retrouve dans quelques minutes. Restez là. C'est la seconde partie de l'émission Le National.
Le vent garde son calme. La nuit nous traîne par les cheveux. Demain, c'est pas encore, nous arrivons. Il ramasse la poussière, nos cœurs de frères André, et nos béquilles font du très bon bois d'allumage. Fort que les camions, oh, Audrey,
laisser la bête à l'eau faire son territoire. Vidant de sa monnaie une fontaine de jouvence, et nous vivrons vieux sur les vœux de tout.
Avec pas de casque sur les ondes de Canal M, et Audrey est plus forte que les camions. Vous vous dites, oh, il va être question de camions. Bravo, vous avez raison, vous avez le droit de revenir. La semaine prochaine, on va y aller dans auroreboreale.ca. Nous sommes très, très loin dans les territoires de l'Ouest, et on nous présente la chronique d'un trocker qui s'appelle, là, je suis vraiment fatiguée, il s'appelle Yves Lafont. Et il écrit ceci, un vrai roman d'aventure. Je ne sais pas comment je vais arriver à décrire la situation adéquatement, mais je vais essayer de brosser le tableau le plus fidèlement possible, sans trop en mettre, ni en omettre. Pour se rendre à la route de glace, on doit d'abord circuler, pendant une heure et demie, sur une route gouvernementale dite « normale », avec de l'asphalte et une ligne jaune quand elle n'est pas enneigée et glacée comme elle l'est la plupart du temps. J'arrive à l'endroit où elle s'élargit énormément à cause d'une autre route bordant la rivière arrivant de la droite. Elle se rétrécit en entonnoir afin de s'engouffrer sur un pont de fer vert à voie unique. Je vois déjà le pont. Comme la température s'est réchauffée pendant le jour à quelques occasions avant de retrouver ses moins 20 degrés Celsius la nuit venue, la surface est rendue lisse comme une patinoire. J'ai juste le temps de voir un des deux trocs me précédant glisser de côté vers le garde-fou, dessinant cet entonnoir, tandis que l'autre devant lui est déjà tamponné dedans. Je ne roulais pas trop vite, mais juste un peu trop. Après une tentative ou deux de manœuvre, je me retrouve, moi aussi, à glisser de travers, camions et remorques bien alignés, mais contrairement aux deux autres, moi, c'est vers l'entrée du pont. Ça ne glisse pas vite, mais encore beaucoup trop à mon goût. Ça ne modère pas non plus. J'ai le temps d'évaluer la situation. C'est à la veille de fessées solides. Je vois ça venir. Les trailers vont péter sur le bord du pont tandis que mon camion va péter sur l'autre bord. Qu'est-ce que je pourrais faire? Je crampe mes roues en masse à gauche vers le pont en espérant, sans grand espoir, que tout tourne assez pour que j'aligne l'entrée du pont dans le bon sens. Ça tourne un peu, mais juste le tracteur. Les remorques, elles, continuent à glisser de côté comme si elles avaient été bâties pour ça. Je le vois bien, le scénario se dessiner. Aussitôt que le devant du camion va toucher le bord du pont, il va se plier encore plus et ça va y être pour un méga jackknife. Asti, youhou ! Je ne peux pas laisser aller cela, les deux bras croisés. Dans une dernière tentative, je joue le tout pour le tout. Au lieu d'essayer de contrecarrer cette motion, je l'encourage. Après avoir barré mes différentiels, j'enfonce la pédale à gaz dans le plancher. La boucane sort des pipes et les trailers, surpris autant que décontenancés par cette manœuvre soudaine qui les tire si brusquement, ne trouvent rien de mieux à faire que de retrouver docilement leur place derrière le camion. Je le sais bien que j'embarque ben trop vite sur le pont, mais j'embarque. Tout suit comme une corde, et à moins de me tromper, le seul métal de ce pont que je touche est le grillage sur lequel mes roues tournent. Bon, ok, ça brasse pas mal. Le diesel dans mes tanks fait de la vague allant, venant, fessant massivement dans le devant et le derrière des parois, infligeant un roulis à tout l'équipement. Difficile à contrôler, mais grosso modo, tout tient le coup. Moi avec. Je dois ralentir au plus tôt, mais il est hors de question de précipiter quoi que ce soit. Les deux masses liquides pourraient pousser trop fort suite à une décélération trop brusque et provoquer ce jackknife que j'ai réussi à éviter de peine et de misère juste avant. Je ne manœuvre pas cette opération avec la plus grande élégance. Mais il reste qu'à la sortie du pont, j'ai retrouvé un tempo presque acceptable. Ni sur mon équipement, ni sur le pont, aucune marque n'est là pour témoigner de ce non-incident. J'arrête immédiatement mon engin en bordure de la route et pars en courant vers des jeux pour jeunes dans un mini-parc. Un collègue témoin de toute la scène vient me demander ce que j'ai fait là, grimper sur des jeux bleus et jaunes. Et je réponds « Je décompresse, Il sourit sympathiquement et détourne son regard ailleurs. Je comprends qu'il comprend. Je saute en bas, ressaute dans mon camion aussi vite que j'en étais sorti et l'embraye. Faut que je bouge. Les nerfs me mènent. Je ne fais vraiment pas long. Des responsables de la route me font signe de rentrer mon équipement dans ce garage tout à côté afin d'inspecter de possibles bris. J'entre le tout et débarque. Ce n'est pas un garage à proprement dit, mais plutôt une ancienne étable. Je sors et vais en arrière, il y a quelques véhicules en dessous du chapeau. Il y a du fumier par-dessus, des gros tas de fumier, des tonnes de fumier. Plus je regarde, plus j'en vois. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce qui cloche? Pourquoi tout est anormal? C'est trop pour moi, trop de sensations. Je retourne dans ma couchette, je me relève en sursaut. Faut que je sorte d'ici au plus vite, il faut que j'aille. Je m'arrête entre les deux sièges. Il faut que j'aille. Où? Où suis-je? Je regarde autour. Un garage. Fuck, ça me revient. Je suis dans un garage à Hay River. Il est 1h de l'après-midi et je m'étais endormi. J'ai rêvé tout ça. D'ailleurs, il n'y a même pas de pont entre Yellowknife et la route de glace. Ce pont, il est ici, à Hay River. Je l'ai vu hier soir en arrivant. Hey, fucking river. À 500 km de Yellowknife. Je me touche la face. Je n'ai aucune sensation. Il doit être blanche comme un drap. J'ai l'impression qu'il n'y a plus de sang qui s'y rend. Je dois avoir dormi solide. Je ne me rappelle même pas m'être étendu. Je ne suis pas un spécialiste des rêves. Je ne sais donc pas comment interpréter celui-ci, mais si je m'y risque tout de même, j'arrive à deux conclusions. La première, je suis un maudit bon chauffeur. Dans mes rêves, du moins. La deuxième, là, je dois vraiment commencer à être fatigué.
De justesse, le passage du nord-ouest, fragment de minute chaviré, le brise-glace est passé.
Le brise-glace, qu'est-ce que c'est beau, Guy Philippe Wells, je viens de découvrir ça, peut-être comme vous d'ailleurs, sur les ondes de Canal M. Merci à Mathieu Tessier hein, qui signe le choix musical de cette émission, le National. Ben, du coup, oui, tiens, je vais commencer par ça, le brise-glace dans l'Acadie Nouvelle. On nous parle d'un brise-glace déployé au large de Chipagan pour aider les baleines noires. Un brise-glace de la garde côtière canadienne a été dépêché au large de la côte nord-est du Nouveau-Brunswick afin de briser la banquise, une pratique hors de l'ordinaire qui vise à aider les baleines noires de l'Atlantique Nord dont l'espace est menacé. Ces baleines sont attendues dans les eaux canadiennes au cours du printemps. L'utilisation du brise-glace a pour objectif de permettre aux pêcheurs de crabes des neiges de finir leur saison plus tôt dans le golfe du Saint-Laurent. Ainsi, on espère réduire le nombre d'accidents entre les bateaux et les baleines, de même que le nombre de baleines prises dans les cordages de pêche. Ces accidents ont causé la mort de plusieurs baleines l'an dernier. La décision du gouvernement fédéral de devancer la saison de pêche du crabe des neiges dans le golfe a été annoncée le mois dernier par le ministre des Pêches, Dominique Leblanc, qui a dévoilé une série de mesures pour prévenir l'extinction des baleines franches. Mercredi, la garde côtière a confirmé que le brise-glace léger Sir William Alexander avait déjà entamé le travail pour libérer les glaces du port de Chipagan, du côté nord de la péninsule acadienne. Toutefois, le porte-parole, Trevor Hodgson, soutient qu'une banquise tout juste au large de la péninsule demeure sous surveillance. « Ce n'est pas quelque chose qu'on peut réellement défaire avec un brise-glace », a reconnu M. Hodgson en conférence de presse à Saint-Jean-Terre-Neuve et Labrador. « Nous allons devoir attendre car Mère Nature la repousse toujours plus loin au large. » D'après M. Hodgson, surintendant du programme de déglaçage dans l'Atlantique, les vents devraient changer de direction d'ici la semaine prochaine et entraîner les glaces plus loin en mer. Mais en attendant que cela se concrétise, il est impossible de prévoir quand la saison de pêche sera lancée. Trevor Hodgson insiste sur le fait que seuls les vents du sud-ouest vont pouvoir repousser les glaces et que tant que la bande de glace au large retiendra la banquise côtière, la marge de manœuvre des brise-glaces demeurera très limitée. Une fois cette banquise repoussée en mer, plusieurs étapes doivent aussi être franchies afin de s'assurer que la saison de pêche puisse commencer de façon sécuritaire. Toujours en Acadie, mais dans le moniteuracadien.com, cette fois-ci, l'éditorial d'Alcide F. Leblanc qui s'adresse aux amoureux et aux amoureuses de la culture. Dans tous les coins de notre province, et surtout depuis ces dernières années, nous sommes énormément favorisés par une très riche ambiance culturelle. Pensons aux nombreux spectacles musicaux, aux pièces théâtrales, aux ballets, à nos merveilleuses chorales ou encore à d'autres activités du genre qui enrichissent grandement nos vies. Même nos musées y contribuent énormément. Tout cela favorise la découverte et l'épanouissement de nos artistes et leur permet, bien que modestement, de gagner leur vie. A-t-on mentionné le mot « musée » Que l'on prenne le temps de visiter ceux de Saint-Jean, de Fredericton ou de Moncton. On peut y vivre littéralement l'extase. Il y a plus encore. À Moncton, dans une salle de cinéma située sur la promenade Trinity, presque à chaque deux semaines, on nous présente directement du Metropolitan de New York, une série des meilleurs opéras de la planète. Tenez-vous bien, ces opéras sont également projetés dans 7000 salles sur l'ensemble des continents et Moncton est l'une des rares villes canadiennes à en profiter. Pourquoi l'opéra est-il aussi magnifique pour la culture? C'est relativement facile à expliquer. Comme on le sait tous, l'opéra est ni plus ni moins qu'une pièce de théâtre sur scène, accompagnée d'un directeur ou d'une directrice, d'excellentes chanteuses, d'excellents chanteurs, de musiciennes et de musiciens. Ces artistes sont à l'apogée de leur carrière. En d'autres mots, les gens qui assistent à ces opéras voient à l'œuvre la perfection artistique sous toutes ses formes. Les personnes qui fréquentent les opéras à Moncton deviennent vite accrochées, car ce sont souvent les mêmes visages qui remplissent les salles. Si vous ne croyez pas l'auteur de ces lignes, allez-y tout simplement, une fois.
La langue française, ça, c'est une chose qu'on a découvert. Ça fait pas longtemps qu'on connaît ça, nous autres, ici, hein? Je suis un petit gars des bois francs qui a chanté le rapidement. Et les gens qui parlent bien m'ont proché à Wignan. Alors, moi, j'ai décidé aussi de refranciser. Au lieu de soigner la baquette, je vais parler à la française.
Au lieu de soigner la baquette, je vais parler à la française.
Ah, oh, mes bons amis, c'est toute une job. Toute une affaire. Ah. D'abord, il faut placer les lettres d'une autre manière, un petit peu pincée, là, En tout cas. Oh, pour changer de prononciation, j'ai pris des leçons de diction. Faut dire que j'en ai arraché, rien qu'avec les moins pitoués. J'ai eu de la misère pareil, avec les F, faut que je graseille. J'ouvre la bouche comme une fournaise pour parler à la française.
J'ouvre la bouche comme une fournaise pour parler à la française.
Le professeur, il dit toujours, articulez, articulez. Personnellement, moi, voyez-vous, ça me fait faire des grimaces. Bah. On pourrait peut-être faire un petit exercice, tout le monde ensemble. Question de voir si on est encore capable d'être capable. Petit pot de beurre. Quand des petits pots de beurre auras-tu? On essaye ça.
Petit pot de beurre. Quand des petits pots de beurre auras-tu?
Excellent. On pourrait maintenant essayer quelque chose d'un petit peu plus compliqué et qui a attrait avec notre petit déjeuner dominical. Petit pot de beurre de Peanut Craft. Quand des petits pots de beurre de Peanut Craft riz auras-tu?
Petit pot de beurre de Peanut Craft. Quand des petits pots de beurre de Peanut Craft riz auras-tu?
Je mets des petits pots de beurre de Peanut Craft riz auras-tu? Quand tous les petits pots de beurre de Peanut Craft se des petits pots de beurre de Peanut Craft riz auront. Mais, comme tous les petits pots de beurre de Peanut Craft ne se des petits pots de beurre de Peanut Craft riz auront jamais, je ne mets des petits pots de beurre de Peanut Craft riz auras-tu?
Jamais.
On va essayer un autre exercice avec les S maintenant. S comme dans ce style. Si ces 606 000, 606 sans su sont sur son sein, sans sucer son sang, ces 606 000, 606 sans su sont sans succès. Voulez-vous l'essayer?
Oui.
Moi, je l'essaye pas.
Moi, je l'essaye.
Vas-y.
Essayez-la.
Si ces 606 000, 606 sans su sont sur son sein, sans sucer son sang, ces 600 000, 606 sans su sont sans succion.
On dirait que tu l'as des
succion.
On dit qu'on a des bouches folles puis qu'on mange toutes nos paroles. Ça fait que moi je dis plus pantoute, je dis que je dis pas du tout. Puis je dis plus qui c'est à soir, j'ai qu'un beau vocabulaire. Des framboises, pas des framboises, c'est donc beau la langue française.
Des framboises, pas des framboises, c'est donc beau la langue française.
À un moment donné, il dit coudon, il dit assisez-vous donc, là.
Non,
excusez-moi. Seriez-vous capable de vous assire?
Non, c'est pas ça.
Attendez, de vous asseoir. Envolez. Essayez-vous. Faites un effort méritoire pour promouvoir. Ce sera extraordinaire. Oh, maintenant, si je vais à Paris, les Français seront surpris de voir un petit Canadien qui, pas comme les Parisiens, nous a fallu de la patience pour garder le parler de la France. Mais on a le cœur à l'aise de parler la langue française.
Mais on a le cœur à l'aise de parler la langue française.
Quand on a bien chanté, on n'a plus qu'à tuluter.
J'adore. Tam tam. Celle-ci, tu peux m'en faire quand tu veux, Mathieu. Vraiment. Non, je me sens pas du tout offusqué. Je sais que j'ai mon accent français. Que voulez-vous? Je suis tombée dedans quand j'étais petite. Pas facile, mais vraiment, les charbonniers de l'enfer, là, bravo. Très bon choix de Mathieu Tessier qui nous amène vers l'eauvive.ca. Nous sommes en Saskatchewan, où j'ai trouvé ce papier au sujet du gouvernement fédéral qui dévoile son plan d'action pour les langues officielles. Mercredi 28 mars 2018, l'honorable Mélanie Joly, ministre du Patrimoine canadien, a dévoilé le plan du gouvernement, le plan d'action pour les langues officielles 2018-2023. Investir dans notre avenir. Ce plan est destiné à appuyer les communautés de langue officielle en situation minoritaire. En plus de conserver les investissements en appui aux langues officielles, ce nouveau plan propose un investissement supplémentaire de près de 500 millions de dollars sur 5 ans. Cette somme comprend l'investissement de 400 millions de dollars proposé dans le budget de 2018, auquel il faut ajouter les initiatives récentes comme l'investissement en appui aux infrastructures éducatives communautaires pour les communautés de langue officielle en situation minoritaire, annoncée dans le budget de 2017. Le plan prévoit l'injection de 14,5 millions de dollars aux médias communautaires, 10 millions de dollars destinés aux projets de collaboration visant les médias communautaires, 4,5 millions de dollars destinés à la création de stages pour la prochaine génération de professionnels des médias. Il y aura aussi la création d'un fonds d'appui stratégique aux médias communautaires de 10 millions de dollars au cours des 5 prochaines années pour des projets qui contribuent au maintien des radios et des journaux de langue officielle en situation minoritaire. 4,5 millions de dollars supplémentaires sur 5 ans dans le programme Jeunesse Canada au travail pour une carrière en français et en anglais, ce qui permettra de créer 35 stages à des stations de radio et chez des éditeurs de journaux des communautés francophones et anglophones en situation minoritaire. Les étudiants et les jeunes récemment diplômés pourront ainsi se perfectionner en tant que nouvelle génération de professionnels des médias communautaires. Alors, parmi les grandes lignes, on souligne le soutien à la petite enfance, 20 millions. Immigration francophone, 40,7 millions. Recrutement d'enseignants pour les écoles de la minorité, 31,29. On parle toujours en millions de dollars. Appui à l'accès à la justice dans la langue officielle de son choix, 10. Et l'augmentation des budgets se fera de façon progressive. Dans un communiqué, la Fédération des communautés francophones et acadiennes a déclaré qu'elle accueillait évidemment favorablement ce nouveau plan. L'organisme trouve également très encourageant que le gouvernement signale sa volonté de travailler en collaboration avec les communautés pour la mise en œuvre du plan. Et en Ontario, dans le métropolitain.com, on nous offre ce papier qui nous parle de la mise de l'avant des services offerts aux entrepreneurs francophones. C'est une grande salle qui donne sur les immeubles de centre-ville de Toronto, 35 étages au-dessus de la rue Yonge, merci beaucoup, je m'excuse, je connais mal Toronto, je suis en train de le prouver. À l'intérieur, il y a une conférence sur le financement des entreprises par le gouvernement qui vient de s'achever, les questions s'enchaînent. Elles portent sur les taux d'intérêt des prêts, la politique du gouvernement pour les nouveaux arrivants qui veulent créer des entreprises, etc. Tous ceux qui demandent ainsi de l'information sont des entrepreneurs francophones. Ils sont venus assister le mardi 27 mars à une journée d'échange, de rencontres et d'informations autour du thème « Les affaires, les services gouvernementaux et vous, organisés par Entreprises Canada Ontario et Connecture Canada. L'objectif, montrer aux francophones les ressources qui existent pour appuyer l'entrepreneuriat, explique Rose Cathy Handy, directrice générale de Connecture Canada. Il y a beaucoup d'enjeux derrière cette rencontre. À terme, il s'agit d'appuyer la réussite. En effet, les entrepreneurs réussissent s'ils ont accès à ces ressources et les utilisent, ajoute Madame Handy. Problème, ils n'utilisent pas forcément ces services car ils ne sont pas toujours au courant de leur existence, poursuit-elle, et c'est pour cela que de nombreux exposants sont venus parler des services qu'ils proposent en français aux entrepreneurs. Parmi eux, il y a la Société économique de l'Ontario, CEO, XRDEE Ontario. La structure accompagne les entrepreneurs avec du mentorat ou du coaching, par exemple, et la CEO est venue justement pour faire connaître ses services, explique Charlotte Maillet, conseillère en employabilité et en entrepreneuriat. Certains entrepreneurs ne les connaissent pas, d'autant que beaucoup viennent d'arriver au Canada ou viennent d'autres provinces, avance Wesker Eliscar, agent de développement économique. De leur côté, les entrepreneurs sont venus nombreux. Adil Mabrouk est l'un d'eux. Il s'est déplacé pour le réseautage, pour échanger des idées, peut-être rencontrer des clients potentiels et connaître les services qu'offre le gouvernement aux entrepreneurs. Avec son épouse, il est le fondateur de Logimec Services et Conseils Inc. La société importe et commercialise un vaste éventail de produits, des bonbons crémeux à la vanille d'Espagne, aux objets en bois d'olivier venus de Tunisie. Cette entreprise, Adil Mabrouk, veut l'agrandir et nous la faire connaître. Et les services offerts aux entrepreneurs sont un très bon moyen d'y parvenir. La source de ce papier, Nicolas Asson-Forêt. Voilà ainsi cette émission d'information francophone partout au pays. Je voudrais remercier Mathieu Tessier qui m'appuie notamment à la musique et à l'horloge. C'était Clotilde Seille qui vous souhaite une belle semaine. À la semaine prochaine.